Et bonjour à toutes et tous et bienvenue au programme jusqu'à 10h. Des solutions et une invitée engagée pour la transition écologique, sociale et sociétale. Et aujourd'hui, c'est une invitée qui chante, qui est à mon micro. Elle a à son actif quelques tubes que tout le monde a en tête. Alors ne comptez pas sur moi pour en diffuser un extrait maintenant, ce serait trop facile. Par contre, je vais vous donner son prénom. Isabelle n'a pas été connue avant de s'engager, elle s'est bien engagée avant d'être connue et ça fait sans doute une sacrée différence. D'ailleurs, pas question pour elle de crier sur les toits ses engagements, elle est plutôt en mode colibri discret.
Sur le principe du colibri, qui est cette magnifique légende amérindienne qui dit « colibri, tu penses quand même pas que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Puis il y a le tatou, je crois, qui l'observe depuis un beau moment. Et le colibri le regarde droit dans les yeux en lui disant « Je le sais, mais je fais ma part. » Donc, on essaye de faire que la vie soit respectée. Maintenant, on n'est pas dû, on ne va pas changer à nous tout seuls le monde. Mais en tout cas, il y a nécessité quand même de se créer à soi-même sa propre cohérence.
Et comme une jolie histoire, pour vous, tout s'est mis en cohérence, puisque c'est une chanson sur la sobriété qui vous a mise dans la lumière. Donc depuis 2010, eh bien vous menez votre barque musicale à coups de textes et d'influences colorées avec cet enthousiasme contagieux. Et bonne nouvelle, selon vous, même si la société telle qu'elle est aujourd'hui ne vous correspond pas, vous préférez plutôt faire votre part que de faire la gueule dans votre coin en utilisant notamment cet outil que vous avez à disposition, la médiatisation. Chouette ! On a 50 minutes devant nous.
France Inter. Des idées pour demain. Valère Correa.
Bonjour Zaz.
Salut, t'écris bien.
Merci, bienvenue sur France Inter. Alors franchement, en préparant votre venue, j'ai forcément réécouté vos chansons, j'en ai écouté que je connaissais pas. Et je vais vous faire un aveu. J'ai réécouté bien sûr « Je veux », c'est la chanson dont je parlais là à l'instant, qui vous a mise dans la lumière. Oui. Moi, quand j'écoutais « Je veux », au début, je me disais « Ouais, c'est sympa, mais c'est un peu à l'eau de rose, c'est une idéaliste. »
C'est bizarre, ça.
Ouais. Et ben, en fait, je me demande si avec quelques millions de personnes, on s'est pas planté.
Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Bienvenue dans ma réalité.
Allez, je propose une chose. Zaz, vous allez nous dire ce que raconte cette chanson, mais on va vous écouter cette fois-ci avec un prisme et un point de départ. C'est qu'en réalité, vous êtes vraiment engagé sur tout un tas de causes,
oui,
et notamment
oui.
Écologiques. Allez-y.
Après, on m'a traité de démago, mais des fois, quand tu dis des vérités, voilà. Enfin, puis les gens, ils n'y croient. Il y a plein de gens qui n'y croient plus. Et puis, quand tu vois ta gueule, enfin, j'avais ma gueule sur TF1, c'est sûr que les gens se disaient, mais c'est paradoxal. Mais on vit tous dans des paradoxes, donc personne ne peut juger personne.
Mais avec le recul, ça raconte quand même un truc assez incroyable, notamment, franchement, en vous découvrant et en travaillant sur.
Moi, cette chanson, en fait, elle sort du fait que je travaillais dans un cabaret piano-bar. Et puis qu'à un moment, j'ai l'impression de plus me respecter. Donc je suis partie et j'avais plus de boulot, donc j'avais plus de thunes. Mais je me suis dit, mais ça sert à quoi de rester pour la thune si je suis malheureuse? Et j'ai pris mon courage et je me suis barrée. Et ça n'a pas été facile, mais si je ne l'avais pas fait, j'aurais pas rencontré Kéredine qui m'a fait chanter cette chanson. Et elle correspondait vraiment à cette époque-là de se ras le cul, quoi. C'est pas ça l'important. Et voilà, même si c'est difficile de faire le choix, mais de faire le choix de faire quelque chose qui te fait du bien, de pas rester dans un endroit qui te rend malheureux juste pour gagner du pognon, quoi.
Mais c'est intéressant, c'est vrai que quand on est presque surmédiatisé, à un moment donné, ça biaise des messages, en fait.
Oui, enfin, moi, tu sais, à l'époque, je m'en rendais pas compte. Moi, je venais de débarquer dans cet univers-là. Et puis c'est la médiatisation. Enfin, tu deviens connu de tout le monde et
on
avec
s'appartient plus.
Et tous les réseaux et tout le monde a des commentaires, tout le monde a des jugements, tout le monde interprète ce que tu es, mais à travers leurs filtres. Donc, et puis en fait, personne te connaît.
En tout cas, c'est clair que vous êtes engagé. J'espère que voilà. Enfin, on va en discuter tout à l'heure. Vous allez
me
dire
j'ai choisi d'être connue pour ça, en fait, parce que quand j'étais petite, j'étais persuadée que j'allais être connue, que j'allais être chanteuse et que j'allais changer le monde. Bon, j'ai bien compris que j'allais pas le changer, en tout cas pas toute seule, mais faire en sorte de créer des choses pour qu'on vive bien ensemble. Ouais.
Et puis on a forcément tous nos paradoxes dans notre vie de tous les jours,
on en parlera
à l'heure. Le point de départ, alors l'écologie, ça vous a pris comment? Petite déjà, vous y pensiez? J'ai lu aussi que vous étiez assez interpellée, probablement dès l'enfance, vous allez me dire, avec le rapport à la nature aussi.
En fait, mon rapport à la nature, c'était que j'étais plus en communication avec la nature et les animaux que l'humain, parce que du coup, il y a c'est direct, c'est clair, il n'y a pas d'interprétation. Enfin voilà, t'es face à un animal, il a peur. Si t'es dans l'amour, bah il va être dans l'amour. Enfin pour moi c'est assez simple le rapport avec les animaux. Et avec la nature c'est encore autre chose. Il y a une dimension assez, je sais pas, il y a quelque chose de très divin. Ouais, mais sans rentrer dans la religion, je parle pas de religion du tout, mais il y a une forme de communication qui est hyper guérissante en fait. Je sais pas comment dire. Enfin, dès que je suis trop oppressée, trop angoissée ou j'en sais rien, je vais dans la nature. D'un coup, j'ai l'impression que ça délie tout quoi.
En tout cas, il y a un truc qui a fait date aussi, c'est votre rencontre avec Pierre Rabhi, ouais. C'était en 2009, non? Comment ça s'est passé?
En fait, c'est marrant parce que je l'entends parler et ça fait 4 fois qu'il m'appelle que j'ai pas rappelé, j'ai honte. Donc il faut vraiment, vraiment...
Faites-le en sortant du studio tout à l'heure.
Mais oui, mais je vais le faire tout de suite. Et parce qu'à chaque fois, le temps passe vite et on prend pas le temps. Bref. Bah, en fait, je cherchais, quand j'ai été connue, donc je cherchais une cause... à défendre, enfin en tout cas à aider. Je voulais que mon merchandising aille dans une cause, donc les recettes des t-shirts, des Zaz, tout ça. Et je suis tombée sur une vidéo de, je sais plus, c'était Kenny Arcana, et dans un clip à elle ou dans une, je sais plus, il y a ce Pierre Rabhi qui parle, et je me dis waouh. Et ma mère m'avait filé un journal quelques années avant, et du coup ça fait le lien. Et là je vais regarder les vidéos et il parle et je me dis putain, je comprends tout. Je comprends tout ce qu'il dit, puis je vois que tout est relié, tu vois, enfin tout est lié, que ça soit l'éducation, l'écologie,
l'écosystème, quoi.
Voilà, tout est relié en fait.
En tout cas, quand on fait sa transition, Zaz, alors qu'on parle souvent des premières fois, il y a aussi une dernière fois, parce qu'il faut arrêter un truc, comportement. Il y en a certains qui n'y arrivent pas clairement. Vous vous souvenez-vous d'une dernière fois dans un processus
plein,
de transition?
La télé. Un jour, j'en ai vraiment eu le ras-le-cul de la télé en fait. Je trouvais ça mais tellement anxiogène et.
Quoi, la télé, c'est fini?
La télé, j'en ai plus depuis 2006, je crois.
Ok. Une autre dernière fois qui fait date?
Bah, j'avais arrêté, j'avais regardé. En fait, tous les films sur les animaux, là, sur la production intensive, j'ai regardé ça pendant 2 jours, j'ai pleuré pendant 2 jours. Et du coup, je suis devenue végane du jour au lendemain. Mais ça m'a vraiment, j'ai eu un gros, gros, gros choc.
Donc là, c'est la souffrance animale qui vous a amené au véganisme, c'est souvent le cas.
Ouais.
Vous l'êtes toujours végane?
Eh ben non. Non, non, parce qu'à un moment, j'ai ressenti le besoin de remanger de la viande. Ouais.
Et avez changé votre rapport quand même à la viande, d'en manger moins,
complètement. Bah, ouais. Déjà, je fais beaucoup de choses en conscience maintenant. Je pense que le plus important, c'est de le faire en conscience. Même quand tu fais de la merde, bah, si tu le fais en conscience, moi, c'est déjà ça. Mais je fais beaucoup plus attention, je choisis, je suis plus consciente, ouais.
Bon, on va voir tout à l'heure, en tout cas, si entre ce qu'on veut faire et ce qu'on arrive à faire, ouais, c'est bien cohérent. Et on le disait tout à l'heure, le paradoxe. Mais il faut aussi en parler des paradoxes, non, parce que ça déculpabilise
les
gens.
Oui, en fait, le truc, c'est que souvent, on dit, ah, c'est tout ou rien, mais c'est pas vrai, en fait. Tu vois, enfin, tu peux pas être dans, enfin, moi, je suis pour l'écologie, mais je suis obligée de prendre l'avion. Et enfin, voilà, après, on est tous dans des paradoxes, mais il faut bien vivre aussi et faire les choses.
Donc, on est aussi dans un système.
On est aussi dans un système, ouais.
Vous avez peut-être entendu parler du défi Rien de Neuf. C'est une ONG qui a lancé ça, elle s'appelle Zero Waste. Ils sont spécialisés dans le zéro déchet, ça vous dit rien?
Ça veut dire qu'ils achètent plus rien et
ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est d'être plus dans le circulaire, la réparation, donc de gaspiller moins de ressources.
C'est vrai qu'aujourd'hui, rien n'est fait là-dedans, que ce soit les voitures ou les trucs. Tu peux même plus réparer tes voitures tout seul, quoi.
On n'est pas trop là-dedans, effectivement. Non. Alors, Rien de Neuf, justement. Il y a des gens qui lancent ce défi pour faire des économies, pour l'écologie, la sobriété. Eh bien, en voici un exemple très concret. Bonjour, Léa Minot.
Bonjour Valère, et c'est vrai que la dernière fois de cette semaine est le résultat d'un long cheminement qui a mené Sophie à ne plus acheter d'objets neufs pour elle et pour sa famille. Alors c'est une manière de réduire les dépenses bien sûr, mais aussi et surtout un moyen de s'extraire de la surconsommation et de préserver les ressources de notre planète.
J'ai grandi avec une maman très nature, donc qui nous a appris à pas jeter de papier, mais avec un papa pas écolo pour 2 sous. Je m'appelle Sophie et la dernière fois que j'ai acheté un objet neuf, c'était à Noël dernier. J'ai souvent entendu mon père dire les cons d'écolo, quoi, par exemple. Mais j'ai pas grandi dans un milieu de surconsommation. On achetait ce qu'il y avait besoin, je dirais plutôt du neuf, par contre. Et je pense que ça aurait peut-être même été mal perçu d'offrir de l'occasion, peut-être. J'ai toujours aimé la nature. J'ai des souvenirs à l'adolescence où je me prenais la tête avec des amis parce qu'ils jetaient un mégot par terre ou un papier par terre et que je les forçais à ramasser et... Voilà, et je sais que moi déjà j'ai toujours cette conscience-là de l'écologie, enfin la nature c'est important dans ma vie, j'en ai besoin. J'ai jamais été dépensière, j'ai toujours économisé. Les sous de la petite souris, les trucs comme ça, j'ai toujours économisé. Et après, quand j'étais étudiante, je faisais les encombrants dans la rue pour meubler mon appart, parce que j'avais pas envie de dépenser des sous dans des meubles. Donc j'ai eu des coussins en sol un temps, et puis le jour où j'ai pu récupérer un canapé, parce qu'il y a des gens, quand j'étais un, j'étais contente, j'avais un canapé, mais les coussins par terre m'allaient très bien. quand je suis devenue maman, c'était toujours logique de pas être dans la consommation. Les bébés, ils portent leurs vêtements rien, un mois, si on a de la chance. J'ai jamais acheté de vêtements de bébé neufs, jamais. Disons que depuis très longtemps, quand on a besoin de quelque chose, le réflexe, c'est d'aller voir sur le bon coin, c'est de le chercher en brocante, c'est... Et il y a encore quelques années, effectivement, quand on n'arrivait pas à le trouver sur le bon coin, eh ben, on avait tendance du coup à aller sur un site internet et à commander neuf. On s'est installé dans le Morvan il y a 4 ans et demi, en aimant déjà la nature, ben, sinon on ne vient pas là. Et quand on a acheté la maison, on était moins dans cette démarche de plus acheter de neuf du tout. Et du coup, on ne s'est pas posé de questions. On a acheté nos matériaux, on a acheté le parquet, on a acheté la peinture.
Et alors ici, on est dans votre cuisine. Qu'est-ce qu'il y a de neuf ?
Dans la cuisine, chez moi, il y en a pas mal qui a été acheté neuf parce qu'il y a toute la cuisine intégrée. Et l'électroménager. Si on passe dans le salon, pour le coup, il n'y a pas grand-chose. Vraiment, depuis 2 ans et demi, on a changé radicalement notre façon de consommer, de fonctionner. Ça a été flagrant, on a rencontré plein de gens très écolos. Et ça donne des exemples, ça donne des idées, ça montre que c'est possible. Au départ, ça nous a demandé beaucoup d'efforts de changer des habitudes. Mais une fois que ça a été acté, que c'était normal, et ben tout s'est enchaîné. Donc c'est comme une roue qui s'est mise à tourner. Et on a changé énormément de choses dans notre façon de consommer et de vivre.
Alors qu'est-ce qu'il y a de neuf dans le salon ? Là, il y a des cajots qui soutiennent des livres, qui forment des étagères. Une télé, un écran plat ?
Cadeau de crémaillère qu'on nous a fait. La seule chose neuve, c'est le poêle. Le canapé, il n'est pas fini, mais je suis en train de le faire avec que des choses de récup aussi. Donc, des poutres qu'on a récupérées chez les voisins qui ont cassé la cuisine. C'est récupéré, même les planches des étagères, c'est l'ancienne porte de garage de la maison quand on a acheté la maison. Donc, En ce qui concerne mon mari, je dirais que ce qui va peut-être plus l'énerver que moi, c'est le temps perdu à chercher. Il faut attendre. Mais après, on a eu cette chance de rencontrer aussi... énormément de gens qui sont dans cette démarche d'échange, de partage. Donc du coup, il s'y met beaucoup plus et je pense que ça le pèse de moins en moins de faire comme ça. Et je vois les enfants, eux, pour le coup, ils ont intégré ça depuis longtemps. Enfin, pour eux, c'est normal.
Et alors, est-ce que tu aurais envie d'avoir des jouets neufs ?
Non, parce que c'est mieux pour la nature. Quand on en fabrique, ça pollue.
Et donc, la dernière fois que j'ai acheté un objet neuf, c'était des vélos pour les enfants à Noël. Mais c'est le cadeau des grands-parents.
Et ça vous a fait quoi d'aller dans un magasin alors ?
Non, je les ai commandés sur Internet. Parce que j'aime vraiment pas aller dans les magasins. Depuis Noël, j'ai rien acheté de neuf. Certains vous diront que c'est parce que je suis radine. On le paye moins cher, oui. Mais voilà, je sais à qui je donne mon argent et on n'a pas refabriqué encore pour moi alors qu'il y a 10 objets de la même sorte qui vont être jetés, quoi. On ne sait plus quoi faire des déchets, il faut juste arrêter de produire du déchet, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Arrêter de produire. Je n'ai absolument aucun doute sur nos choix de vie. Mais aucun, vraiment. Et quels que soient les regards, les critiques, les reproches, parfois des gens qui comprennent pas ou qui trouvent que c'est trop extrême, ou... je ferai pas marche arrière. Mais oui, on est bien plus heureux d'être en phase avec nos convictions profondes aussi, en fait.
Alors, il existe de nombreuses initiatives pour celles et ceux que cela intéresse, comme le SEL, le système d'échange local, ou alors le groupe du défi Rien de Neuf sur Facebook, qui vise les 100 000 participants cette année.
La dernière fois que j'ai acheté un objet neuf. Merci Léa Minot, à la semaine prochaine. Aïe, 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 la surconsommation, Zaz. Alors, comment vous consommez-vous ? Vous êtes en mode instinctive, réfléchi ?
Moi, je ne consomme pas beaucoup du tout.
C'est vrai ?
Non, non. Moi, mon kiff, c'est de payer des restos aux potes.
D'accord.
Enfin,
bon,
moi, okay. Moi et aux potes.
Ça, c'est sympa.
Mais je ne suis pas quelqu'un qui consomme... j'ai pas besoin de grand-chose, en fait.
Jamais, ni avant, ni après, finalement, quand même, la mise en lumière, le succès,
non, parce que j'ai jamais été comme ça avant. Enfin, j'avais pas les moyens déjà de l'être. Puis je pense que ça rend plus créatif, en fait. Comme dans plein de pays pauvres, en fait, ils ont pas notre... Et du coup, ils sont hyper créatifs, ils vont créer des jeux, créer des... Et je trouve qu'on a... Du coup, on perd notre créativité à acheter des choses dont on n'a pas forcément besoin. Non, il y a des choses dont on a besoin, mais il y a des choses qui sont superflues, dont on n'a pas besoin, et qu'on pourrait... Moi, je vois ma sœur, par exemple, qui garde des enfants à la maison. À un moment, ça l'a énervée, elle a viré tous les trucs en plastique, les trucs électroniques et tout ça. Et puis, en plus, tu te rends compte qu'ils vont s'amuser deux secondes, ça les intéresse même pas. Donc, t'es dans de la surconsommation. Et en fait, ce qu'elle a fait avec mon beau-frère, il crée des espèces de structures sur plateau avec des boulons, des machins, des trucs de texture. Et en fait, les gamins s'éclatent pendant des heures avec ça. Elle dit, mais c'est... Enfin voilà, déjà elle trouve ça plus cohérent. Et puis les gamins s'éclatent plus.
Non mais c'est juste le syndrome quand on leur achète un jeu en disant en fait ils jouent avec l'emballage plutôt qu'avec le jeu.
Ouais, c'est ça.
Les enfants c'est quand même un peu ça.
Ouais.
Le changement de niveau de vie, c'est-à-dire quand même vous êtes passé sans doute d'un truc à un autre truc avec sans doute pas mal de radicalité entre les deux. Comment vous avez vécu cette transition-là?
En fait, ça a rien changé. Enfin, tu vois, de moi. Sauf qu'à un moment, je pouvais plus faire plaisir et plus valoriser des gens qui me touchaient. Par exemple, des artistes. Je vais, par exemple, si je trouve un truc super bon, je sais pas, moi, j'ai une amie qui fabrique des trucs, mais je vais lui en acheter 50 pour toute l'équipe, quoi. Tu vois, dès que je trouve une artiste je vais valoriser, ce qu'on fait avec Zazimut, ou avec les associations, ou le festival. En fait, mon pognon, il part là-dedans, mais moi, ça me va, parce que ça m'enrichit, ça paraît, on dirait qu'on n'a pas le droit de dire ça, tu sais, mais c'est...
Là, vous avez tous les droits, hein, jusqu'à
10 heures. Oui, mais je veux dire, je suis vraiment comme ça, quoi.
Ok, moi, en tout cas, j'ai découvert quelqu'un en préparant votre venue. Bien sûr, j'ai choisi de vous inviter, je sentais bien qu'il y avait quelque chose, mais on va lever le voile sur tout ça, parce que ça mérite à être davantage connu. Votre musique, elle est connue, elle, et notamment ce très très joli duo que je vous propose d'écouter avec Zaz, donc vous, et Yuri Buenaventura sur France Inter.
Devant personne.
Maintenant j'ai rompu, j'ai fait les beaux.
Quand elle me sonne,
j'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa main au cœur.
Sois jalouse au-delà de tout, et même pire.
Une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle.
Une jolie pervenche un jour en mourut à coup d'ombrelle.
Je me suis fait tout petit devant ton poupin qui ferme les yeux. Ses bras en croix, j'ai subi vraiment dernier supplice. Il en est des pires, il en est des meilleurs.
Qu'on se parle d'ici, qu'on se parle d'ailleurs,
support.
Yuri Buenaventura et Zaz avec ce titre « Je me suis fait tout petit » sur France Inter.
France Inter.
Les idées deviennent à une vitesse.
Valère Correa, des idées pour demain.
Et mon invité Zaz, artiste engagé. Vous êtes engagé pour quoi alors, Zaz?
Ouais, j'aimerais qu'on puisse vivre bien ensemble, en fait.
Ah, c'est un gros projet.
Ouais. Bah, ouais. Non, mais on fait plein de choses sur la tournée. Je sais pas, on a fait notre bilan carbone. On reverse pour...
Tiens,
pour,
sur les tournées, parlons-en. Alors, qu'est-ce que vous faites sur les bilans carbone? Parce que vous prenez tout le temps l'avion. Parce qu'il faut quand même dire que Zaz s'exporte très bien à l'étranger.
On fait beaucoup d'avions, ouais. On fait beaucoup d'étrangers. Donc
vous êtes une des artistes les mieux exportées à l'étranger. J'ai lu ça, c'est vrai. En tout cas, à l'international, ça cartonne aussi.
Oui, oui, on fait beaucoup, beaucoup de concerts à l'étranger. Bah, du coup, je prends, par exemple, Russie, Turquie, Serbie, Pologne, Allemagne, Japon, Amérique latine.
Donc, beaucoup d'avions. Enfin, ouais, et il faut compenser ça. Comment vous faites alors?
Bah, il faut, en tout cas, moi, c'est évident que... Faut le faire, oui. Ouais. Bah, on compense, on crée des projets, par exemple, pour avoir des. C'était où on a replanté des arbres en France.
Vous compensez, en tout cas, vous faites votre bilan carbone sur toute votre activité professionnelle.
Mais on a même un stand en fait sur chaque concert qu'on fait où les gens peuvent cliquer en disant on a poussé le truc hyper loin où tu demandes aux gens d'où ils viennent, s'ils ont été en covoiturage, s'ils ont été pour faire des statistiques.
Pour compenser eux aussi en fait, c'est-à-dire vous l'incluez dans votre bilan carbone à vous. Ouais. Et le merchandising, c'est quoi? Cette histoire,
et le merchandising, en fait, on essaie d'avoir des produits éthiques et toutes les recettes sont reversées au réseau. Donc maintenant, on a 200 associations peut-être maintenant.
Alors le réseau, justement, c'est Zazimut.
Ça s'appelle Zazimut. Donc à chaque fois,
c'est une asso en fait. C'est une association. Ouais.
C'est un réseau d'associations partout dans le monde. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait un concert, on trouve une association locale, on la fait monter sur scène pendant le spectacle. Elle parle avec les gens. Après, ils vont sur le merch et ils communiquent entre eux. Et puis ça crée des vocations, ça crée de l'entraide, ça crée des gens qui ont envie de qui prennent conscience aussi. Enfin, ça relie les gens entre eux.
Donc là, ça permet finalement sur votre activité professionnelle de à la fois compenser le bilan carbone, mais aussi soutenir des projets locaux et les mettre en réseau.
Oui,
avec
puis moi, ça me je rencontre des gens, mais enfin c'est enfin moi je les mets en lumière, je suis connue, donc j'ai cet outil qui est la notoriété. Mais eux, ils sont souvent dans l'ombre et ils lâchent rien. C'est des gens, mais qui ont une patate et qui ont une énergie qui. Enfin, moi, ça me fascine en fait. Ils sont, c'est des héros quoi. Enfin, tu vois, ils sont.
Et
ils
sont vous avez créé un festival en plus, qui est un festival dit citoyen, le Crusol Festival. C'était les 5, 6, 7 juillet dernier. C'est où? On y fait quoi? Pourquoi citoyen?
C'est en Ardèche. Et du coup, on a repris un peu le truc de la tournée, en fait. C'est-à-dire qu'on se sert de la musique pour permettre aux gens de participer, d'être plus conscients, de connaître, de rencontrer. C'est-à-dire que t'as un village citoyen. Il y a tout un truc participatif où je sais pas
des associations,
oui,
des acteurs,
des associations, il y a des conférences, il y a il y a tous les acteurs locaux aussi qui sont sur le territoire qui peuvent nous le ce qu'on pense c'est qu'il faut ancrer ça sur un territoire et faire rencontrer les gens sur un même territoire et du coup souvent on se connaît pas en fait sur un même territoire. Et du coup ça crée du lien et quand il y a du lien tout va beaucoup mieux. Mais je suis contente, c'est tout ce qu'on a le retour, tu vois, à chaque fois chaque année je me dis on va arrêter et puis en fait dès qu'on ressort du festival et qu'on parle avec les gens et que enfin c'est il y a une telle énergie, enfin ça tu te dis mais non on peut pas s'arrêter là quoi.
Et donc vous avez créé Zazimut, ce réseau international d'associations engagées, mais aussi ce festival au château de Crussol en Ardèche appelé le Zazimut Fest. Est-ce que Zaz est en passe de devenir une marque éco-engagée finalement?
C'est pas Zaz en fait, mais moi ce que j'aimerais c'est que ce festival il s'ancre sur le territoire, c'est de créer tout un tas de festivals comme ça mais qui s'ancrent sur le territoire et que les gens s'approprient. Le plus important c'est que les gens s'approprient leur festival.
Si les auditeurs ne connaissent pas encore votre dernier album, il y a une chanson à écouter absolument, c'est « Demain, c'est toi », ça part de l'enfance et c'est un sujet qui vous tient à cœur.
Je peux témoigner, après m'être formée à la CNV, de combien la CNV, la communication non violente, peut apaiser le climat d'une école, les relations dans l'équipe, les relations avec les jeunes et entre les jeunes.
Déclic, c'est une association qu'on a lancée pour faire connaître spécifiquement la communication non violente de Marshall Rosenberg dans le monde de l'éducation et tout ce qu'elle peut apporter au service d'une éducation respectueuse de l'enfant.
Zaz, vous n'êtes pas venue seule. Véronique Gaspard, formatrice certifiée en communication non violente, cofondatrice donc de l'association Déclic, vous accompagne. Pourquoi l'avoir choisie elle?
Parce que je pense que l'éducation, la pédagogie dans l'éducation, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que c'est ce qui va faire les enfants, c'est le monde de demain. et que ça doit commencer dès le début et qu'il y a tout un tas de choses, d'outils qu'on devrait mettre en place et qui sont pas automatiques et qui sont des outils qui nous servent en fait. Au-delà d'apprendre des matières et tout ça, enfin, il faut apprendre à vivre ensemble.
Bonjour Véronique Gaspard.
Bonjour.
C'est quoi la communication non violente ?
La communication non violente, pour moi, c'est ce qui m'a aidé, en tout cas, à avoir les moyens d'être bienveillante. J'entendais tout à l'heure, Zaz, combien la méchanceté pour toi, c'était un truc juste hallucinant.
Parce que je comprends pas, ouais.
Et que tu comprenais pas.
Non.
Et moi, je me suis vue à certains moments avoir beaucoup moins les moyens que dans mes rêves absolus. Et j'ai vu aussi le décalage qui était le mien entre mes intentions d'accompagner mes enfants et puis d'accompagner les élèves quand j'étais infirmière scolaire, mais aussi dans le cadre de mes actions de prévention avec le conseil régional. Et j'ai rencontré beaucoup, beaucoup d'acteurs sur le terrain qui étaient aussi démunis que moi. Et ce que j'aime dans cette approche, c'est que précisément, ça me donne comme un repère interne sur lequel je vais pouvoir m'appuyer pour vivre ce que je préfère au monde, c'est les relations de qualité. Et là, je m'éclate.
Donc, communication non violente égale juste respect mutuel, savoir choisir les bons mots, le bon ton.
C'est quoi ? C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est un processus pour moi qui nous invite, en tout cas qui, moi, m'a invité à aller réexplorer toutes mes habitudes de communication, que ce soit dans ma façon de m'exprimer, mais aussi d'écouter les autres. Mmh. Et là, j'ai réalisé à quel point, à moi toute seule, j'étais un terroriste, j'étais une bombe sur pattes, et que, loin de mes intentions, je pouvais exploser ou imploser à n'importe quel moment. Et là où j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour Marshall Rosenberg, l'initiateur de ce processus, c'est qu'il a consacré sa vie entière à aller repérer qu'est-ce qui fait que, alors que l'on est bienveillant et empathique, eh bien, il y a des moments où on se transforme. Donc, si je résume, la CNV, c'est l'art de redevenir aussi malin que quand on avait 3 mois. C'est-à-dire que vous comme moi, hop là, on avait faim, on avait des sensations, on voulait à manger, hop, on l'exprimait, je veux un câlin. Et 30 ans après, c'est qu'est-ce que t'as foutu, j'ai faim et visiblement le frigo est vide. J'imagine que t'as passé ta journée à France Inter à faire le journaliste. Ça donne ça.
J'ai fait semblant, ouais.
Hein, voilà.
Véronique Gaspard, vous avez cofondé donc l'association Déclic. Comment est-ce qu'elle peut œuvrer pour promouvoir cette communication non violente ? Quel est son rôle ? Quels sont ses moyens ?
Alors déjà, j'ai cofondé avec Catherine Schmider, qu'on a entendue juste avant, et je voulais saluer son travail parce que c'est elle qui est à l'origine de ce projet. Et donc notre intention, nous, c'est de soutenir les éducateurs sur le terrain. Quand on parle d'éducateurs, c'est les parents pour les aider à devenir parents avec des ateliers parentalité. C'est les enseignants, sont les éducateurs spécialisés, les chefs d'établissement, les inspecteurs.
C'est vraiment au sens large.
Au sens large, parce que moi, je travaille dans pas mal d'académies de Paris et Créteil, Caen, Lyon, pour soutenir la formation initiale des chefs d'établissement et des inspecteurs. Parce que pour moi, il y a une urgence pour que ceux qui sont des éducateurs deviennent inspirants. Et j'aime beaucoup leur dire qu'avec moi, c'est non négociable. Nous avons un devoir d'inspiration.
Véronique Gaspard, vous êtes formatrice donc certifiée en communication non violente. Et je vous ai entendu dire, on a beau transmettre aux enfants les bonnes manières, il n'y a rien à faire, ils continuent de faire comme nous.
Mais oui, c'est quand même incroyable, cette capacité que les gamins ont à reproduire précisément.
Parce qu'ils font tout par mimétisme en
mais
fait.
Oui.
Mais t'auras beau lui expliquer qu'il faut que c'est ça la meilleure manière de faire. Mais si toi, c'est pour ça je pense que si on veut bien prendre soin des enfants, il faut apprendre à bien prendre soin de soi.
Mmh. Ouais. Oui, merci, parce que c'est ce que disait Marshall, il disait... À la fin de sa vie, c'est un homme qui était assez humble. Il disait qu'il n'avait rien inventé. Il s'était beaucoup appuyé sur des sagesses ancestrales et aussi, par exemple, les avancées de Piaget où l'homme, le petit, apprend par imprégnation. Et j'aime bien cette idée de l'éducation silencieuse. L'enfant, il voit et il reproduit.
Oui. Et moi, je vais même rebondir sur l'écologie. Tu vois, l'écologie, c'est le reflet de l'individu. Donc, si on veut que la Terre aille mieux, il faut aussi qu'on apprenne à être plus écolo, moins râler, moins être dans des énergies négatives aussi, parce que c'est facile de... Mais ça pollue, ça, on se pollue tout seul, et on pollue les autres.
Et au sens propre et figuré, on se pollue.
Oui, ouais. L'écologie, elle passe par soi d'abord.
Je voulais vous demander le lien entre communication non violente et protection de l'environnement. Comment ça, à un moment donné, ça se boucle, ça, ouais.
Pour moi, c'est un vrai défi, c'est-à-dire que si aujourd'hui, les enfants sont respectés dans leurs émotions, leurs sensations, s'ils sont entendus dans les besoins fondamentaux, dans leurs différences... Ouais. Je crois fondamentalement au fait qu'ils ouvrent cette compétence aussi vers les autres, en sachant que les enfants naissent empathiques. Donc c'est comment on préserve l'empathie naturelle, comment est-ce qu'on préserve l'élan de contribution qui est notre nature. Et donc je crois beaucoup aujourd'hui qu'en soutenant les éducateurs, pour qu'ils soient inspirants, dans deux générations, mon rêve absolu, c'est que la CNV soit rangée dans les librairies à côté des dinosaures, qu'on n'ait plus jamais besoin d'entendre parler de cette approche.
Merci en tout cas Véronique Gaspard d'avoir accepté l'invitation de Zaz. Merci. Donc, et pour en savoir plus sur cette association, c'est le www.declic-cnveducation.org. Merci beaucoup. Zaz, donc vous êtes une engagée, puis vous êtes devenue artiste. Enfin, en tout cas, c'est totalement mêlé. Les deux sont totalement mêlés.
C'est pas une question d'être artiste ou engagée. Enfin, je suis un humain qui aime créer et qui est engagé. Enfin, c'est
ça. Et vous faites votre part. Un peu comme les colibris.
Après, on fait au mieux. Puis on apprend. Il y a des choses que je sais pas encore aujourd'hui. Que ça se trouve, dans 10 ans, je vais me dire, mais comment j'ai pu faire ça encore? Et
bon, en tout cas,
faut être tolérant. Je pense qu'il y a une notion de tolérance. C'est comme quand t'as pris conscience de quelque chose, t'as l'impression que tout le monde doit prendre conscience du même truc en même temps, quoi. Et ça devient la dictature.
Bon, on va être super tolérant avec ce que vous faites vous dans votre vie à tous les jours. Oui. Juste après Lizzo sur France Inter. Avec le titre Juice sur France Inter.
Des idées pour demain.
Pourquoi partir de demain ?
Valère Correa.
J'attends demain avec impatience.
Sur France Inter.
Et Zaz est mon invité cette semaine, artiste engagé. Zaz, le plastique, c'est plus du tout fantastique. Pas mal de monde essaye de lui déclarer la guerre. Vous lui avez déclaré la guerre, vous aussi ?
Ouais, je fais mon tri, j'essaye d'en acheter. C'est insupportable, en fait. Des fois, il y en a mais partout, pour rien.
Hors micro, tout à l'heure, vous parliez de fruits et légumes emballés.
Ouais, en fait, j'étais j'étais dans un pays et je reçois un cadeau qui est emballé dans un truc, mon carton plastique.
Lui-même emballé.
Avec plein de fruits, mais tous emballés dans du plastique. et tout ça dans du plastique, et c'était absurde.
Bah oui, les emballages, c'est vrai que c'est un peu mortel. Alors il y a un moyen de les éviter, c'est tout simplement d'acheter des produits qui ne sont pas emballés. Ça existe, les produits pas emballés, les produits frais notamment, mais pas que, les produits d'épicerie aussi. Et pour en parler, il y a Camille Dufetel, rédactrice en chef de l'infodurable.fr, qui vient de nous rejoindre. Bonjour Camille.
Bonjour Valère.
La vente en vrac, ce n'est pas nouveau. Nos grands-parents ou arrière-grands-parents ne connaissaient qu'elle. Eh bien, cette ancienne façon de vendre revient maintenant dans les supermarchés. Vous choisissez, vous pesez, et c'est moins cher. Mais vraiment moins cher, de 20 à 40% en moyenne, selon les produits. Voyez plutôt, thé en vrac, 90 francs le kilo, le même thé en boîte, 163 francs le kilo. Le secret ? On enlève le prix de l'emballage et surtout celui de la publicité.
C'est pas mal. Je trouve ça très bien.
Et on va donc jeter un œil dans le rétro des solutions et parler vrac, Camille.
Et oui, je vous propose aujourd'hui de plonger encore une fois, il y a une bonne soixantaine d'années et plus, auprès de ma grand-mère Solange, à une époque où on allait s'approvisionner en grande partie dans de petites épiceries, où assez souvent on utilisait des sachets en papier et où on ne prenait que la quantité désirée et surtout nécessaire des produits que l'on achetait. À une époque où à la campagne, des gens prenaient leur pot en aluminium pour aller chercher le lait à la ferme, mais aussi leur boîte en carton pour les œufs, à une époque où on ne retrouvait aucune trace de capsule à café dans la cuisine, ni de multiples sacs en plastique et emballages en tout genre.
Et tout ça nous paraît extrêmement loin.
Extrêmement loin, oui. J'imagine que vous avez entendu parler du fameux hashtag Ridiculous Packaging, lancé par l'organisation Greenpeace l'an dernier.
Bien sûr.
Alors l'idée, en fait, c'était de poster sur les réseaux sociaux des photos de produits avec des emballages inutiles, voire absolument ridicules, pour dénoncer le suremballage, des bananes, on en parlait, entourées dans un sac plastique, parfois individuellement.
Ouais, c'est ce que disait ça tout à l'heure.
Voilà. Mais aussi des fruits prédécoupés et placés aussi dans des barquettes
ça,
en plastique.
Énorme.
Alors aujourd'hui, ce ne sont pas les exemples qui manquent malheureusement. On en voit partout. Ça a poussé d'ailleurs ces derniers mois de nombreux consommateurs à travers le monde à participer à des plastiques attaques. L'idée, laisser les emballages superflus de ces produits dans les magasins après les avoir payés.
Oui, et Camille, une des manières donc d'échapper à tous ces emballages, c'est de se rendre par exemple dans une épicerie spécialisée dans le vrac et ça revient.
Voilà, alors déjà ce qui est bien par exemple pour les fruits et légumes, c'est de repérer des fruiteries, des marchés ou certaines enseignes qui ne proposent pas autant de plastique que de fruits sur leurs étals, notamment des enseignes bio spécialisées. Et puis effectivement, il y a les fameuses épiceries spécialisées dans le vrac qui reviennent. On y trouve quasiment de tout, des féculents, des huiles, des épices et même souvent des produits cosmétiques. On en comptait environ 200 aujourd'hui en France contre une quinzaine il y a encore quelques années. Citons notamment le réseau Day by Day. Biocop en propose aussi, et puis plein d'indépendants, même la grande distribution s'y met. Certaines enseignes proposent désormais leur rayon vrac.
Voilà, et ça permet donc Zaz.
Non, mais il y a des fermes aussi. T'as des fermes où tu vas avec tes enfants le week-end et tu vas ramasser tes fruits, tes légumes. Mmh. Mais c'est génial parce qu'au moins tu sais, tu retrouves le rapport avec la terre et tu manges pas tes produits pareils.
Le direct producteur, le circuit court, c'est vrai. Alors en plus, le vrac, ce qui est bien, c'est que ça permet de réduire ses déchets, mais aussi de faire plus attention aux quantités qu'on achète. En fait, on gaspille moins.
Bah oui, puis alors où l'on jette au sein des ménages en France près de 30 kilos de nourriture par an et par personne quand même, ça semble être une bonne idée. C'est aussi une belle manière, comme on le disait, de faire des économies. Je précise d'ailleurs pour ceux qui souhaiteraient retrouver les épiceries 100% vrac près de chez eux que France Inter a publié sur son site une carte de France de celle-ci grâce aux contributions des internautes.
Voilà, un retour à suivre de près. Merci beaucoup Camille pour en savoir plus sur le vrac. C'est l'infodurable.fr. Zaz, vous êtes une adepte des colibris, un mouvement qui prône l'idée que chacun peut faire sa part. Alors moi, j'aimerais bien savoir comment vous faites la vôtre, notamment sur le plan plus personnel. Comment est-ce que, par exemple, vous vous déplacez au quotidien?
Nous, on essaye un maximum. Je t'avoue que je suis pas souvent à la maison. Je suis beaucoup en déplacement, donc souvent on est en tourbus.
Donc là, c'est avion, bilan carbone, et vous essayez de le compenser.
Voilà.
En fait, c'est quoi votre vie à vous tous les jours?
Quand je rentre à la maison, je t'avoue que je suis éclatée. Donc j'ai une copine qui va souvent chez un boucher juste à côté de chez elle, qu'elle connaît très bien, qui est juste un peu fou, qui est un passionné. Et donc, elle achète le jambon, les choses chez lui. C'est toujours hyper bon. J'ai une épicerie juste à côté. J'essaye d'acheter local. Mm-hmm. Voilà.
Donc, je disais, vous tournez beaucoup. J'imagine qu'entre les jet lags, les retours, les allées, enfin bref, ça doit être une vie un peu incroyable. Mais pour autant, il y a d'autres solutions que vous mettez en œuvre dans votre vie à tous les jours pour justement être en cohérence avec la protection de l'environnement.
Dans la maison, je suis chauffée aux granules de bois.
D'accord.
Je fais mon compost, j'ai un petit
pas mal,
un
vous faites votre jardin. Compost.
Ouais, j'ai les artichauts qui sont en train de pousser là, mais je les mange pas parce que c'est trop beau. Mais c'est vrai, t'as déjà vu un artichaut en fleurs, c'est magnifique.
Ouais, c'est super beau, c'est bon aussi quand même.
Ouais, mais je préfère les regarder, ils sont trop beaux.
C'est un choix, hein, pourquoi voilà. Pas. Okay. Donc vous faites pousser un peu des fruits et légumes.
Ouais, des fruits et des légumes dans le jardin.
D'accord.
J'ai un cerisier, mais bon, c'est des graines. Et puis les pies et les merles, ils bouffent tout, donc elles sont toujours trouées, donc elles prennent l'eau, bref.
Bon, vous partagez ça avec les filles.
Voilà, elles sont très. Moi, je suis heureuse qu'ils soient.
Qu'elles soient heureuses et qu'elles mangent de bonnes cerises.
Qu'ils soient bien.
L'écologie, c'est un truc de riche ?
Ben non, c'est une prise de conscience, en fait. C'est un acte. C'est des actes, en fait. Non, c'est pas un truc de riche.
Non, mais vous savez, on parle souvent de bio, on parle de certains produits en circuit court, etc. Il y en a qui disent, bah ouais, c'est super, la fin du monde. Il y a aussi la fin du mois. Moi, je vais faire mes courses là où c'est vraiment le moins cher, quoi.
Oui, je comprends ça aussi, mais ça passe par autre chose que. Enfin. Oui, c'est délicat. Oui, c'est sûr que ça coûte plus de pognon. Mais en même temps, je sais pas, parce que...
Le rapport à l'alimentation, par exemple,
peut-être
c'est vrai
qu'on, peut-être qu'on bouffe trop aussi et qu'on veut, on valorise le plus par rapport à la qualité. Et du coup, vaut mieux manger moins et avoir un truc de qualité. Enfin, moi, je le perçois comme ça, quoi.
Ouais, c'est-à-dire que le rapport à l'alimentation fait qu'à un moment donné, on peut être davantage dans un respect de l'aliment parce
ouais,
que
puis c'est un choix. Enfin, je veux dire, moi, j'ai par exemple, il y a un truc qui est insupportable. Les enfin, tu vois, moi, je suis écolo, pourtant, je fume. Donc, bon, c'est pas très cohérent. C'est encore un paradoxe.
Sans jeter vos clopes par terre.
Ah, mais jamais. Mais puis, je fais la guerre et je fais la guerre. Je te jure. Mais ça. Mais du coup, je pourrais mordre quelqu'un. Enfin, je serais. Quand tu vois que t'es à la plage et que le mec il a son sac plastique par terre ou son truc, t'as envie de lui bouffer les mollets, quoi. Enfin, mais en même temps, bon, c'est à l'agresser, ça va pas aider. Et c'est juste qu'il est pas conscient. Donc, soit tu lui expliques gentiment et tu lui dis excuse-moi, mais là, tu profites de l'endroit. Enfin, je sais pas, tu lui expliques, quoi. Mais c'est vrai que
ça vous arrive de le faire.
Lui cracher. Ah mais moi si je vois un truc, ouais, je vais le dire tout de suite, ouais.
Bah, donc gentiment, c'est ça votre.
Bah, je pense que ça sert à rien d'agresser les gens parce qu'ils vont prendre ça, ils vont pas entendre ton message, ils vont voir quelqu'un qui aboie en fait. Moi même si je suis d'accord avec ce que dit une personne, si elle me gueule dessus, je vais dire va te faire foutre quoi. Enfin tu vois, ça, tu m'agresses. Mais en expliquant les choses, genre voilà, ce qui est difficile, mais ça demande de prendre le temps de dire bah voilà, là ce que t'es en train de faire, bah, déjà ça me choque parce que t'es en train de profiter de l'endroit, on est tous en train de profiter, et là tu fais un acte qui est complètement incohérent parce que tu lui expliques quoi.
Mais ça bon, c'est
après,
super important.
Après s'il a pas envie de parler, bon bah mais retrouver aussi le contact avec les autres et enfin voilà, même si je vois un enfant qui fait un truc, même s'il y a un parent, bah ouais, je vais me permettre parce que pour moi les enfants sont tous les nôtres et si je vois que l'enfant il fait un truc qui est pas et ben c'est ma responsabilité de le dire même si c'est pas mon gosse à moi, c'est le gosse de l'humanité, enfin j'en sais rien, c'est tu vois, enfin il faut lui dire quoi.
Ça vous arrive aussi d'essayer de convaincre des proches et de
ah oui oui, pousser. Bah ouais. Moi les clopes là, c'est la guerre hein, non attendez, des fois je vois les mecs en plus et je fais putain en plus devant moi mais sérieux mais vas-y. Donc ils ramassent mais il y en a plein, j'ai même bref, j'ai des gens qui me disent maintenant je le jette plus parce qu'à chaque fois j'entends ta voix dès que je le jette par terre.
Donc vous avez un peu traumatisé voilà. Des gens quoi.
Non, mais c'est pas traumatisé. Après, je pense que c'est des mécanismes. On est souvent dans des mécanismes et on veut pas changer. Enfin voilà, on fait pas attention ou j'en sais rien, tu vois. C'est mais moi il y a des choses que je fais, j'imagine aujourd'hui encore et que je dans 10 ans je dirais mais comment j'ai pu faire ça aujourd'hui, tu vois. Mais je le vois peut-être pas encore, ou j'en sais rien.
Comment vous voyez l'évolution entre la fin des années 2000, où donc vous avez explosé sur la scène médiatique, et toute cette place de l'écologie, il y a une dizaine d'années, et aujourd'hui, à la fois un chemin incroyable, beaucoup disent c'est très insuffisant, d'autres disent bah, c'est déjà bien. Comment vous analysez
ça? C'est déjà bien, non, c'est pas déjà bien. On parle encore de choses où alors il faudrait qu'il y ait des vrais actes, il y en a pas à la hauteur de l'inquiétude qu'il y a. Enfin, tu vois, ça va plus. C'est comme si tu demandais à une. Je sais pas, moi, tu demandes pas à une femme de faire 10 bébés en un an. On demande à la terre de produire des choses. Tout devient, c'est pas sain en fait. Et on a l'impression que on va pouvoir faire ça pendant très longtemps. Sauf que, bah non, là, on arrive à, on peut plus quoi. Les coraux sont en train de disparaître. Enfin, c'est dramatique. Hein. Et on a l'impression, je pense qu'on est beaucoup aussi dans les images. Je pense qu'à partir du moment où t'expérimentes quelque chose et que tu le vis, bon bah là, d'un coup tu vas l'appliquer parce que tu l'as ressenti. Et souvent on est caché derrière des écrans ou des trucs ou des fois on veut pas regarder, on veut pas voir, mais quand t'expérimentes quelque chose tu peux plus agir différemment en fait.
pas sûr en tout cas que la transition passe par les gouvernants ou les grosses compagnies. Elle passera peut-être aussi par public.
Non, mais il y a énormément de gens qui sont en train de prendre les choses en main. Moi, je crois aux actes citoyens, en fait. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens ont compris que ça allait pas bouger tout seul et que c'est à chaque individu de se bouger le cul pour ce qui est important pour lui. Et je pense que c'est ça qui est plein d'espoir dans l'humanité. C'est qu'on est, on est beaucoup à se réveiller, là. On est beaucoup. Il y a des gens qui sont déjà réveillés depuis très longtemps, mais qui sont fatigués, très fatigués, comme des Pierre Rabhi, comme plein de gens, parce que
ils sont des pionniers
qui sont battus, mais à tous les temps, sauf que là, je pense que ça commence à être collectif, et ça commence à être, il y a de plus en plus de gens qui sont en train de s'impliquer dans des collectifs.
Très rapidement, si vous en êtes d'accord, donc la dernière question, c'est la coutume de l'émission et je tiens à vous la poser. Est-ce que ça compte vraiment tous les petits gestes, vous savez,
mais évidemment, tout est important. Et c'est dans les petites choses qu'il y a des grandes choses.
Merci Zaz d'avoir accepté mon invitation. Un rappel, le dernier album que vous avez sorti, c'est Effet Miroir. Et puis une date à venir bientôt, ce sera le dimanche 1er septembre au festival Foire en Seine à Châlons en Champagne. Merci beaucoup Zaz d'avoir été avec nous ce samedi matin. Pour réécouter des idées pour demain, c'est sur l'appli France Inter ou franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Jérôme Boulet, préparée par Antoine Vandeville, à la technique Paul Percheron et à la programmation musicale Djoubaka. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec Pablo Servigne, chercheur spécialisé sur le thème de l'effondrement. Tout un programme. Allez, bon week-end.